Vous écoutez France Musique.
Musicien ex cathédra consacré à Louis Vierne, troisième et dernière émission. Avec à nouveau, bien sûr, Vincent Warnier en cette fin de saison, mais nous sommes contents au sens, non pas que nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait, mais contents quand même d'avoir exploré, il me semble, un domaine musical que beaucoup d'entre les gens que nous interrogeons autour de nous ne connaissaient pas vraiment. Et je vous ai dit au début de la première émission, il y a deux semaines, que moi-même, eh bien, Louis Vierne, je le connaissais un peu de loin, et curieusement, je connaissais mieux sa musique d'orgue que le reste, à l'exception du quintet, qui est peut-être son chef-d'œuvre, hein, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais j'avoue que les mélodies, par exemple, je n'étais jamais vraiment allé voir à quoi elles ressemblaient. Et on a pu déjà entendre, au cours des deux premières émissions, qu'il y a des pages vraiment, vraiment originales. Alors là, on va aborder la dernière période de composition de Louis Vierne, qui va aller, on va dire, de 1919 à 1931, avec, à la fin de l'émission, un véritable chef-d'œuvre, qui est une mélodie, d'une certaine manière, plus qu'une mélodie, puisque c'est une pièce de 17 minutes, donc on ne peut plus parler véritablement de mélodie, mais d'une scène lyrique, quasiment, oui, pour voix et orchestre, qui s'appelle « La balade du désespéré », qui date de 1931 et qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mais pour le moment, je voudrais que nous revenions aux mélodies. Nous avons dit que Louis Vierne s'est intéressé très vite au genre mélodique et à la mélodie en elle-même, aussi parce qu'il fréquentait, s'était marié, à des chanteuses. Et il s'intéresse à Verlaine, mais pas seulement, il s'intéresse aussi à Baudelaire. Et là, évidemment, le parallèle avec Debussy est à faire. Baudelaire, les poèmes de Baudelaire, de Debussy, qui sont aussi des œuvres intéressantes parce qu'elles marquent une sorte de basculement entre le premier Debussy et puis ce qui va devenir une texture beaucoup plus raréfiée, beaucoup plus subtile dans ses mélodies, et d'ailleurs dans le reste de sa musique, dans son piano également. On entend dans les poèmes de Baudelaire, de Debussy, les restes de cette époque follement wagnérienne, hein, qui était celle du compositeur. Et là, dans ce que fait Louis Vierne, sur l'un des textes de Baudelaire, ce sont les hiboux, j'ai choisi celui-là, c'est le cinquième de ce cycle de 1919, eh bien on entend quelque chose d'absolument extraordinaire. Une allusion plus que grosse à Claude Debussy. Je vous propose qu'on l'écoute d'abord et puis on en parle après.
Thank you.
Les Hiboux, l'un des poèmes de Baudelaire, opus 45 de Louis Vierne, chanté par Mireille Delinche et François Kerdoncuff, qui l'accompagnait au piano. Malheureusement, je dois dire que Mireille Delinche, qui a des qualités, bien sûr, on le sait, ne rend pas la compréhension du texte très aisée. C'est pas son fort, la diction, de toute évidence, ce qui est un petit peu dommage, parce que lorsqu'on a Baudelaire mis en musique, on aimerait en comprendre un peu davantage, mais on peut toujours se reporter, bien sûr, au texte original. Francis Poulenc disait, on peut faire de la très bonne musique avec les accords des autres. C'est un peu ce que fait Vierne d'une certaine manière. On peut pas trouver plus de Debussiste dans son œuvre que cela, quasiment. Hein.
C'est presque une étude de style, parce que le début avec la gamme Parton, et puis ces mélodies un peu contournées. Mais il reste quand même le sens mélodique de Vierne. Et lorsque je joue même sa musique d'orgue, avec ses grands mouvements lents, on sent cet épanouissement de la mélodie. Je me suis toujours dit, cet homme est extrêmement doué pour écrire pour les voix et pour le chant, bien sûr. Et ça ne m'étonne pas, même dans sa musique instrumentale. En revanche, c'est un autre Vierne sur le plan du langage harmonique. On a très rarement, voire jamais, ce climat-là dans la musique d'orgue. Donc, une fois de plus, la musique d'orgue est réservée à un mode d'expression qui va du monumental à l'intime, aux formes traditionnelles, alors que son jardin secret, ça reste cela, ça reste la mélodie, c'est l'antidote. Et ça, c'est absolument passionnant de voir le deuxième visage de ce compositeur.
Alors, il y a une autre chose qui me ravit absolument. Évidemment, c'est une petite chose de rien du tout et une plaisanterie de ma part. Mais le ti-la-di-la-di-la-di-la-di-la, ça me fait vaguement penser à une certaine œuvre d'orgue que tout le monde connaît. Je ne pense pas que de la part de Vierne, ce soit voulu. Mais il y a une sorte de détournement quand même de ce petit insipide d'une certaine toccata en ré mineur que chacun reconnaît et connaît, bien sûr.
Mais Vierne avait beaucoup d'humour. Vous savez, c'était aussi... Bon, on parle toujours de ce côté sombre, dépressif, c'est vrai, sa vie n'a été qu'une succession de malheurs. Mais ses élèves, et notamment Gaston Litaise, il y a d'ailleurs une interview qui a été faite dans ses murs, où il parlait de l'extrême intelligence de l'homme, mais également d'un sens de la répartie, un humour grinçant.
Grande culture.
Culture encyclopédique.
Latin, grec, tout cela, et même au-delà, et aussi d'humour, donc.
Oui.
Ça
ne
s'entend pas comme ça, on ne l'imagine pas, parce qu'il était difficile comme personnage, il se vexait. Il voyait des complots partout, il y en avait aussi réellement des complots.
Il y avait de quoi, hein.
On en a raconté quelques-uns, enfin on en a évoqué quelques-uns, mais un personnage compliqué.
Oui. Mais le côté
humour... Il aimait se faire du mal un peu, non ?
Oh,
aussi, en plus du mal qu'on lui faisait et qui lui était fait, ou que la vie lui faisait.
Hein ? En bon romantique attardé, il y avait une forme de complaisance aussi par rapport à ça. Mais l'humour chez Vierne se retrouve aussi dans le côté sarcastique de ses scherzo.
Alors ce qui est intéressant maintenant, dans une autre mélodie qui s'appelle « Le repos », qui est extrait des poèmes grecs, c'est qu'on va entendre un langage qui se raréfie encore plus. Et là, on est proche... je dirais, de l'esthétique un peu à la grecque des dernières mélodies de Forêt. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un cycle pour voix et harpe, peut-être rapproche cela d'une sorte d'idée de la musique à la grecque, musique à l'antique. Hein. Et c'est un Vierne qui se rapproche là aussi de Debussy, le Debussy des chansons de Bilitis. Il y a quelque chose de cet esprit-là. Je propose de l'entendre par Mireille Delinche et cette fois-ci Christine Icard, la harpe. On est en 1930, on n'est plus en 1919. Oh. sorte de musique à l'antique, je le disais, blancheur, comparable à la blancheur des derniers cycles de Fauré. Hein. Je pense à la chanson d'Ève en particulier, avec cette musique d'ailleurs, quand on la regarde, qui n'est faite que de ronde et de blanche. Et là, c'était Mireille Delinche, à nouveau, dans un des deux volumes qu'elle a consacré à l'œuvre vocale de Louis Vierne. Et c'était Christine Icard à la harpe qui l'accompagnait. Donc c'est un recueil original hein, pour voix et harpe. Ça mérite d'être souligné.
Avec cette tentation exotique qui traverse l'esprit de Vierne à cette époque-là, il faut savoir qu'aussi il écrit Les Soirs étrangers. C'est une suite pour violoncelle et piano, avec notamment un hommage à Grenade. Alors c'est une sorte d'Espagne rêvée, d'Orient rêvé, de Grèce éternelle.
Des pièces de fantaisie à nouveau, mais là pour violoncelle et piano. Fait référence évidemment à son grand cycle pour orgue.
Absolument. Et c'est amusant parce que finalement l'orientalisme était quelque peu à bout de souffle au début des années 30. Hein.
Voilà.
Et c'est un peu à Vienne, un retardement, qui se souvient un petit peu de cette passion qu'a eu toute la musique française aussi. On pense à Scheherazade de Ravel,
les Heures persanes de
Quéclin, qui bien entendu ont été les fers de lance de ce courant dont Vienne finalement se sent lui aussi solidaire.
On va entendre maintenant, pour rester dans la mélodie et dans un relatif décrochement temporel, nous allons entendre un extrait des Angélus, qui est un cycle de mélodies pour voix et orgue. Nous ne sommes pas tout à fait à la même époque, mais quasiment là.
Oui, c'est 1929. Alors, encore un peu d'autobiographie, si vous voulez bien. Madeleine Richepin, chanteuse, donc, a été vraiment le dernier grand amour de Louis Vierne, même si on n'en a pas de preuves formelles.
Franck Bézingrand est assez discret sur le sujet. Si on lit le livre, on n'est pas certain qu'ils ont partagé le même lit, par exemple. Vincent Varnier.
En effet, il y a certainement une correspondance que l'on ignore encore. On sait que Vierne avait été mortifié par le mariage de Madeleine Richepin au début des années 30 avec un médecin. Mais elle a été l'exécutrice testamentaire de Vierne et elle a donc créé à Saint-Cernin, à Toulouse, avec Louis Vierne au clavier des grandes orgues Cavaillé-Coll, ce cycle de mélodies, trois mélodies. Les Angélus, vous savez, c'est la dévotion mariale que l'on fait jour de l'annièrement.
Oui.
Et matin, midi et soir, évidemment, où l'on récite à voix basse la visitation de la Vierge. Et c'est assez rare pour être souligné, c'est un cycle original pour voix et orgue en français. Et c'est de grande qualité. Ça demande une voix assez lyrique parce que l'orgue a des registrations voulues par Vierne.
Oui.
Et notamment la deuxième mélodie, c'est une fileuse, un mouvement perpétuel.
Ah, à nouveau.
À nouveau.
Hein?
Vous allez retrouver complètement l'écriture idiomatique de Vierne pour orgue seul.
Dont on parle depuis la première émission.
Absolument. Alors, au lieu d'avoir un jeu soliste à l'orgue, on a une voix qui chante ce texte de Jean le pauvre moine, qui était un poète normand fort jeune à l'époque de la création de cette œuvre, qui avait donc écrit ces trois poèmes que Vierne a mis en musique.
On en écoute les deux premiers. C'est Gordon Jones qui les chante. Il est accompagné à l'orgue par
David Hill.
Deux des trois mélodies qui constituent le triptyque Les Angélus, très très intéressante musique. Je vous posais la question hors micro. C'est évidemment pas du tout de la musique d'harmonium, c'est de la musique pour un orgue avec pédalier, et c'est véritablement de l'écriture pour grand orgue. D'ailleurs, vous expliquez qu'il fallait une voix assez costaud.
Oui.
Même si là, le baryton chante une partie un peu aiguë pour lui, peut-être, mais c'est aussi pour changer un petit peu de tessiture après les nombreuses mélodies que nous avons entendues par Mireille Delinche. Là, c'était peut-être une autre empreinte sonore, c'est celle du baryton britannique Gordon Jones, avec à l'orgue de la cathédrale de Westminster à Londres, David Hill.
C'est un orgue intéressant et Vierne l'avait joué. C'est un orgue à plusieurs couches de restauration, d'agrandissement successif. Oui. Et c'est peut-être le plus français des orgues londoniens.
Vierne qui voyageait beaucoup.
Énormément.
Grande tournée aux États-Unis, grand voyage dans l'Europe. Enfin, c'était un organiste concertiste très réputé.
Et c'est touchant de voir, par exemple, les pièces de fantaisie, 24 pièces de fantaisie, sont toutes quasiment sans exception, sauf peut-être la promptue qui est dédiée à André Marshall, sont dédiées à des organistes américains ou des organistes anglais.
Ah oui.
Comme s'il voulait peut-être un peu fuir un environnement un peu hostile, à vrai dire, qu'il avait dans le milieu de l'orgue en France, pour se consacrer à ses amis outre-Atlantique ou outre-Manche.
On va justement revenir à la musique d'orgue et je vous ai fait cette proposition parce que je l'ai découverte très récemment. Cette cinquième symphonie, vous m'avez dit qu'elle n'était pas beaucoup jouée.
J'étais un peu surpris quand vous m'aviez proposé ce mouvement-là de la cinquième symphonie parce qu'en effet, elle est un peu prise en tenaille entre la dramatique quatrième symphonie qui est à mettre en rapport avec les œuvres de guerre, notamment le quintet
qu'on a évoqué la semaine dernière.
Et puis la toute dernière œuvre, la sixième, composée en 34 à Monton, qui est plus méditerranéenne, qui est plus lumineuse, qui avait été créée par son disciple Maurice Durufé à Notre-Dame en 1934.
Comme Dindy, Vierne va trouver une sorte de jouvence.
Oui.
Hein, au soleil de la Méditerranée.
De la Méditerranée, oui, oui. Et la cinquième, alors c'est encore une œuvre totalement noire, dépressive. Et puis surtout, c'est celle qui va le plus loin dans les recherches harmoniques.
Eh bien oui.
Aux frontières de la tonalité, en un mot.
En découvrant cela, ce larghetto de la cinquième symphonie, moi j'ai pensé au dernier Liszt.
En effet, qui dans vous pensez par exemple aux pièces comme la Bagatelle sans tonalité,
voilà,
le Tchardas macabre,
absolument.
Etc. Oui, qui j'aime pas trop dire qui annonce, vous voyez l'école de Vienne.
Non, il faut faire les choses à l'endroit.
Mais en effet, il y a c'est d'une perspective sur le plan du langage qui va très 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 loin dans la suspension tonale. Et Liszt en a été peut-être le membre initiateur avec Wagner. On le dit pas assez, mais la place de Liszt sur l'évolution de l'harmonie à la fin du IXe est très importante.
Et comment ?
Et c'est clair que là, c'est le Vierne expressionniste. Vous voyez, on passe de l'impressionniste des mélodies dont nous parlions tout à l'heure à propos de Debussy, jusqu'à une sorte d'expressionnisme douloureux. Et c'est pourtant le même compositeur.
Et on est en 1923-24. Ouais. Les Angélus que nous avons entendus auparavant étaient de 1929. Donc c'est un peu avant, mais j'avais voulu rassembler les mélodies, les trois exemples de mélodies, en les plaçant côte à côte. Mais on va encore entendre effectivement que Vierne, décidément, je le disais à plusieurs reprises, et vous le disiez aussi Vincent Warnier, est multilingue. Écoutez cet incroyable labyrinthe harmonique, finalement, qu'est ce larghetto de la cinquième symphonie. On a choisi la version dite mythique de référence.
Ah bah oui, c'est la version...
Pierre Labrique.
Oui, Pierre Labrique. On en avait parlé, vous souvenez, quand on avait fait l'émission sur la symphonie pour orgue. C'est pas la seule, il y a beaucoup de très belles versions. Mais c'est une version mythique parce qu'on la trouvait plus et elle a été rééditée par les disques du Solstice.
Il y a un peu de souffle, mais il y a du souffle aussi dans le jeu.
Ah oui, il y a une flamme incroyable.
Thank you.
Pierre Labrique, musicien inspiré.
Oui. Oui, oui. Merci d'avoir choisi ce mouvement parce que ça me donne envie de le travailler. Je ne le joue pas.
Vous ne jouez pas ?
Non, je ne joue pas du tout la cinquième.
Comment se fait-ce ?
Eh bien, vous voyez, je reste un peu dans la convention. Vous savez, les organistes, oui, parce qu'on joue tous. Alors, dans les concours, vous avez systématiquement deuxième symphonie, troisième symphonie, un peu la quatrième. Donc, on joue tous un peu ces mouvements. Bien sûr, c'est magnifique, hein, mais ça mérite.
C'est
vraiment,
toujours la même affaire, au fond. C'est-à-dire, les professeurs ne les apprennent pas, donc ne les enseignent pas à leurs élèves,
qui
ensuite
ne
les jouent
ça.
Pas au concert. Les organisateurs de concerts ne connaissent pas non plus. Les chefs d'orchestre, puisque les solistes ne jouent pas les concertos rares, enfin, etc., etc. Et on en est toujours à cette vie musicale qui stagne. Je parle de la France, bien sûr.
Oui, c'est dommage. Ça mériterait d'être un petit peu plus audacieux et curieux, tout en conservant le grand répertoire. On peut très bien faire...
Évidemment, on ne va pas dire que Beethoven est moins bon que Vierne, mais l'un n'empêche pas l'autre,
absolument,
il me semble.
Absolument.
Et ça, moi, je dois dire, sans connaître aussi bien que vous, évidemment, tout ce cycle des six symphonies pour orgue, je suis tombé un peu de ma chaise, comme on dit.
Je vous comprends, oui.
Vraiment, parce que là, on est dans quelque chose qui échappe, justement, à la musique d'orgue. Je vais un petit peu hérisser le poil de nos amis organistes qui nous écoutent, mais parfois, je trouve que de la musique d'orgue, c'est souvent de la musique d'organiste, c'est-à-dire avec... ce côté modal, avec des fragments de plein chant qui circulent dans une harmonie comme
pas
ça.
Toujours très heureuse.
Voilà.
Oui.
Bon,
je
voilà.
Vais vous dire
ça, c'est de la très 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 grande musique qui échappe au cercle de l'orgue, tout simplement.
Je vais vous dire tout simplement que les musiciens auxquels vous faites allusion sont des organistes compositeurs, alors que Vierne est un compositeur organiste.
Oh, c'est joliment dit. Alors... on arrive à deux œuvres de Louis Vierne, un poème pour piano et orchestre, qui date donc de 1925, nous sommes juste après cette symphonie, et qui est une œuvre très différente, là aussi, d'esthétique et d'esprit.
C'est une fantaisie libre. Vierne ne semblait pas à l'aise avec la forme concertante, on en avait parlé. Hein. Même tous ces musiciens français semblent rejeter l'académisme du concerto avec soliste brillant. Seul Saint-Saëns écrit cinq concertos.
Évidemment, qui écrit aussi des concertos pour piano.
Écrit des concertos pour piano.
Son professeur.
Mais ensuite, César Franck, ce sont les variations symphoniques au piano et orchestre.
Oui, Dindy.
C'est la symphonie Sevenol. Et Vierne, ce sera ce poème pour piano et orchestre, qui est un petit peu construit comme les variations symphoniques de Franck. C'est-à-dire que vous avez deux thèmes, là encore, hein, contraste, personnification des thèmes musicaux, qui vont évoluer de manière un peu parallèle jusqu'à un fulgurant final. Et tout ça dans l'esprit de la variation. Franquiste, alors, pour le coup. C'est vraiment une œuvre intéressante, l'introduction est formidable. Alors là, vous avez vraiment le piano et l'orchestre, deux entités irréconciliables et qui vont finir par faire bon ménage. C'est un très beau concerto également, et j'encourage aussi les pianistes à s'y mettre.
Qui joue ça ? Mais il n'est jamais trop tard.
Mais Monsieur Kerdoncuff le joue fort bien.
Pour s'y mettre, on va l'entendre à nouveau accompagné, non. Pas à nouveau, mais en tout cas dans le disque dont nous avons entendu un extrait déjà, qui est la fameuse symphonie enregistrée par Pierre Bartholomé à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Liège, que nous retrouvons là avec François Kerdoncuff, effectivement, qu'on a entendu si souvent au cours de ces trois émissions, accompagnant notamment Mireille Delinche dans les mélodies.
Thank you. Thank you. Thank you.
Le poème pour piano et orchestre de Louis Vierne, une œuvre de 1925, c'est-à-dire dans cette troisième et dernière période de sa vie créatrice. C'était François Kerdoncuff qui était au piano avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé par Pierre Bartholomé, qui en a été longtemps le directeur musical et qui est un musicien aventureux qui s'est enhardi à enregistrer cette fameuse symphonie en la mineur dont nous avons entendu le mouvement lent la semaine dernière, grand chef-d'œuvre qu'on aimerait entendre un peu plus au concert. Et ce poème pour piano et orchestre, donc ce concerto contourné de la même façon qu'on contournait les symphonies pour faire plutôt des poèmes symphoniques ou des œuvres à programme au tournant du siècle également et un peu plus tard. Là, on s'aperçoit encore une fois que Louis Vierne est un peu en retard. Non pas, je ne parle pas de progrès musical, mais c'est dû à quoi ça, comme les mélodies que nous avons entendues en début d'émission, il a sa période grecque après un peu tout le monde. Quoi.
Après tout le monde, il y a toujours. Mais le monde de l'orgue a toujours eu 20 ans de retard par rapport.
C'est l'archaïsme qui est trop.
C'est l'archaïsme. C'est
qui pèse un peu trop. Quoi,
mais hein, bien sûr, voilà. Vous savez, ça vient de très haut dans la hiérarchie de l'Église catholique. Hein, le motu proprio du pape Pie X en 1903 remet les pendules à l'heure. Hein, et il faut revenir à de la musique sérieuse et notamment aux formes anciennes.
On va maintenant aborder la dernière œuvre de ces trois émissions et on va terminer très fort par une pièce que je ne connaissais absolument pas. C'est vous qui m'avez fait connaître ce disque, Vincent Varnier, je vous en remercie. Il faut dire que c'est un disque qu'il faut un peu le chercher. Il a été fait en Australie par un chef français qui s'appelle Guillaume Tournière et qui dirige l'orchestre de Queensland et un excellent ténor qui s'appelle Steve Davis-Lim qui chante la ballade du désespéré. Une œuvre qui est l'opus 61 de Louis Vierne, qui date de 1931, qui est pas une mélodie, on ne peut pas appeler cela une mélodie, ça dure 17 minutes, c'est une cantate, une scène lyrique.
C'est une scène lyrique à deux personnages chantés par le même chanteur, le poète, le poème d'Henri Murger, d'ailleurs, fantastique. Hein. Vierne aime le retour à l'antique, soit le climat fantastique. Il va mettre en musique, auparavant, les djinns de Victor Hugo.
Oui.
Forêt, César Franck, s'y était intéressé.
Voilà. Oui, oui.
Là, c'est un dialogue fantasmatique entre le poète et un personnage mystérieux qui veut s'introduire chez lui. Qui est ce personnage? C'est la mort. Imaginez Vierne, compositeur d'opéra une minute, Renaud. Et je crois que là, nous en avons un exemple assez frappant.
Mais là, on l'entend.
Mais
on
oui,
l'entend.
C'est un auteur profondément inspiré par les scènes dramatiques, par le théâtre. Ça aurait pu faire un compositeur de théâtre extraordinaire.
Il a écrit cette légende qu'on a évoquée dans les précédentes émissions sans pouvoir la faire entendre, faute d'enregistrement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette ballade du désespéré a été écrite avec piano.
Oui.
Mais il y a une orchestration qui lui confère véritablement ce côté dramatique, ce côté opératique. Et alors, curieusement, l'orchestration, elle est due à Maurice Duruflé.
Curieusement, peut-être pas, Renaud. Duruflé était l'élève préféré de Louis Vierne. En fait, Louis Vierne nourrissait le secret espoir de voir Duruflé lui succéder à l'ordre de Notre-Dame. Et Duruflé a eu le triste privilège d'assister à la mort de Louis Vierne en direct lors du 1750e récital du maître à Notre-Dame qui s'est éteint au moment d'improviser sur l'Alma Redemptoris Mater. Donc Vierne a rendu son dernier souffle à la tribu.
Oui, ça c'est incroyable.
C'est une mort rêvée
mort
pour un
à son instrument.
Oui.
Ce qu'il avait d'ailleurs prédit à plusieurs reprises, j'ai lu.
Il le souhaitait.
Oui,
il le souhaitait.
Oui, oui. Donc une orchestration peu connue qui a été faite après la mort donc de Vierne en 1943.
Oui, qui est très rutilante. On voit là que Duruflé est élève de Duca.
ma porta a 7 ore.
La balade du désespéré, opus 61, de Louis Vierne, une œuvre de 1931. Alors là, c'est le Louis Vierne le plus méconnu, mais grâce à ce disque qui a été enregistré par Steve Davislim, le Queensland Orchestra, dirigé par Guillaume Tournière, eh bien, ce chef-d'œuvre, orchestré par Maurice Duruflé, en 1943, 6 ans après la mort de Louis Vierne, bien nous permet de découvrir une facette vraiment, encore une fois, étonnante de ce compositeur, dont j'espère qu'il vous aura été agréable au cours de ces 3 émissions, chers auditeurs, de découvrir les parties les moins connus de sa musique. On le connaît bien sûr pour sa musique d'orgue, mais on l'aura vu, il y a décidément des chefs-d'œuvre un petit peu partout dans ce catalogue qu'il faudra encore revisiter. Merci à l'équipe qui nous entourait aujourd'hui, Cédric Châtelus et Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission, et Flora Sternadel qui m'a aidé à la préparer. Et merci surtout à vous, Vincent Varnier, de m'avoir accompagné encore une fois pour ces 3 émissions passionnantes. À très bientôt.
Au revoir, Renaud Machard.